c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Quelque chose de merveilleux, qu'il soit nuageux ou ensoleillé, comme un début de semaine d'ailleurs, et il est synonyme d'espoir. Alors très très bonne journée à vous, c'est l'air du temps, et même s'il est à l'automne avec sa pluie, son vent, eh bien on prend tout avec le sourire, comme le chantait Charles Trenet, un sourire et tout s'éclaire, et puis, cela donne la baraka.
Elle avait toujours au coin de la bouche ce petit sourire qui faisait mouche. Elle laissait le vent emporter tout, les soucis, les remous. Moi j'avais encore les yeux qui louchent, des plaies sur le cœur, des escarmouches. Ça pesait des tonnes, j'avais la frousse de tout, de tout. Elle a débarqué au coin de ma rue. Je l'attendais pas, je l'attendais plus. Elle m'a regardé, on s'est reconnu. Je l'espérais pas, elle est quand même venue. Elle m'a dit compte sur moi, compte sur moi. Aussi vrai que chaque peine cache une joie. Elle m'a dit compte sur moi, compte sur moi. Reste encore un peu là près de moi. Sont passés et moi j'allais. J'avais ce petit truc au coin des yeux qui plissait au soleil sans trop forcer. Je peux pas l'expliquer, j'étais heureux. Elle m'avait regardé, on s'était reconnu. Je l'espérais pas, elle est quand même venue. Elle m'a dit compte sur moi, compte sur moi. Aussi vrai que chaque peine cache une joie. Elle m'a dit compte sur moi, compte sur moi. Reste encore un peu là près de moi. La baraka, la baraka, la baraka, la baraka, la baraka. Reste encore un peu là près de moi. Un jour la chance avait tourné, comme si un jour durait une année. Au fond de mon trou, quand j'y croyais plus, je l'ai aperçu. Ma baraka, ma baraka, ma baraka. Elle était revenue. Elle m'a dit compte sur moi, compte sur moi. Aussi vrai que chaque peine cache une joie. Elle m'a dit compte sur moi, compte sur moi. Reste encore un peu là près de moi. La baraka, la baraka,
Yannick Noah sur Radio Plus, et c'est une nouveauté issue du tout nouvel album de ce chanteur qui nous donne souvent la pêche. Et alors la pêche, eh bien c'est le point commun de nos trois intervenants d'aujourd'hui. Tout d'abord Jean-Louis Ouattet pour la rubrique Saltant sur la planète, qui arrive à nous convaincre chaque semaine de ce qui est bon pour nous. Et avec lui, nous en finirons avec le chapitre pesticides, avec encore cette semaine quelques faits d'actualité. Oui, les choses bougent, les gens se révoltent et n'ont plus envie de se laisser empoisonner à petit feu. Et ça, c'est plutôt tant mieux. Et puis nous retrouverons ensuite Bertrand Trinel pour notre rubrique Jardiner autrement. Lui aussi a toujours la pêche. Cela doit être les bienfaits d'une vie passée souvent à l'extérieur, à écouter la nature. Alors nous parlerons aujourd'hui principalement des rosiers qui ne donnent pas, vous allez l'entendre, que des roses. Et puis notre dernière rubrique, nous parlerons handicap avec Hervé Bedu, président de l'association Handi Défense, qui déplore le manque de personnes handicapées parmi les élus. Et croyez-moi que lui aussi a la pêche pour imposer ses idées et les défendre. Comme Mickey 3D, que tout le monde s'aime. Alors, notre enquête dans l'air du temps. Alors, je ne sais pas si le mois de novembre, considéré dans le mois liturgie comme le mois des défunts, je ne sais pas si c'est ce mois qui a inspiré l'enquête de UFC Que Choisir, mais celle-ci montre que les obsèques ont beaucoup augmenté ces 5 dernières années. L'association de défense des consommateurs constate que l'organisation de ce triste événement que sont les funérailles coûte de plus en plus cher aux Français. Et dans cette enquête, je précise cela pour vous faire sourire, quand même, qu'il est remarqué une flambée tarifaire de la crémation. Une remarque qui pourrait figurer dans un bêtisier, n'est-ce pas ?
Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains.
Viens mort à la maison si le cœur vous en dit.
Venez pleurer avec nous sur le coup de midi.
Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années d'état d'enterrement vous passe sous le nez. D'état d'enterrement vous passe sous le nez.
Mais ce sont les funérailles tantôt. Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en carreau. Les petits macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents.
Aux fossoyeurs, aux croquements,
aux curés,
aux chevaux, même ils payaient un verre.
Elles sont révolues, elles ont fait leur film de temps.
Les belles pompes funèbres,
on ne les verra plus.
Et c'est bien la tristan.
Les belles pompes funèbres de nos 20 ans.
Maintenant les corbillards à tombeau grand ouvert emportent les trépassés jusqu'au diable mauvais.
Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin.
Voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin.
L'autre semaine des salauds à 140 à l'heure
vers un cimetière minable emporté à des leurs.
Quand sur un arbre en bois d'urne se sont aplatis,
on s'aperçut que le mort avait fait des petits.
On s'aperçut que le mort avait fait des petits.
Mais ce sont les funérailles d'antan.
Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en carreau.
Les petits macabées ronds et prospères
quand les héritiers étaient contents.
Aux fossoyeurs, aux croquements,
aux curés,
aux chevaux, même ils payaient un verre.
Elles sont révolues,
elles ont fait leur temps.
Les belles pompes funèbres,
on ne les verra plus.
Mais c'est bien attristant,
les belles pompes funèbres de nos 20 ans.
Plutôt qu'avoir des obsèques en grande fioriture,
j'aimerais plutôt qu'on te fait passer de sépulture.
J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où.
Et même à la grande rigueur, ne pas mourir du tout.
Pour que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil,
l'époque des matus vus dans mon joli cercueil,
ou quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu.
Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul.
Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul.
Mais ce sont les funérailles d'antan.
Les petits corbillards de nos grands-pères
qui suivaient la route en carreau.
Les petits macabées ronds et prospères
quand les héritiers étaient contents.
Aux fossoyeurs, aux croque-morts,
aux curés,
aux chevaux, même ils payaient un verre.
Elles sont révolues,
elles ont fait leur temps.
Les belles pompes funèbres,
on ne les reverra plus.
Et c'est bien attristant,
les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Bam.
Le groupe Chanson Plus bifluorait pour cette reprise de la chanson de Georges Brassens. Alors, on parle d'inhumation, de crémation, mais savez-vous que certains se battent pour l'humusation, c'est-à-dire pour que l'on transforme le corps mort en compost humain en utilisant des micro-organismes. Alors, je vous raconte, on utilise pour ça un compost composé de broyats, de bois d'élagage qui transforme en 12 mois les dépouilles mortelles en en humus sain et fertile. Tenez un bon sujet pour notre rubrique « Saletant sur la planète », pourquoi pas. Mais n'ayez crainte, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Allez, tout de suite, on retrouve Jean-Louis Ouattet, président de l'Étrême Nature.
Saletant sur la planète.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors depuis quelques semaines, en corrélation avec l'actualité, nous traitons des pesticides pour les dénoncer, bien entendu, et pour redire leur dangerosité. Vous nous avez rappelé, Jean-Louis, cette enquête de Santé publique qui affirme que chaque Français et que chaque enfant a des polluants présents dans l'organisme, dont bien sûr des substances que l'on trouve dans les pesticides. À côté de cela, on a vu qu'un bon nombre d'agriculteurs protestent contre le projet de mise en place des zones de non-traitement destinées à protéger les populations contre les dangers potentiels des produits phytosanitaires et que malgré tout, certains maires, comme celui de Langouette, interdisent leur emploi à moins de 150 mètres des habitations. Alors nous avons mis en cause aussi les SDHI, ces fongicides employés aussi en agriculture pour combattre les champignons et les moisissures et dont nous nous sommes pour ce point appuyés sur des études faites par le directeur de recherche du CNRS. Et puis enfin, la semaine dernière, nous avons évoqué cette loi prévoyant un fonds d'indemnisation pour les salariés victimes de pesticides. Finalement, un aveu de l'État que ces substances sont dangereuses. Alors si vous le voulez bien, nous allons clore aujourd'hui ce dossier avec une note optimiste quand même, parce que cela commence à bouger. Les chercheurs, les scientifiques, les associations environnementales, les particuliers avertis et les maires qui veulent protéger leur population se rebellent, et tout cela fait pression sur le ministère de l'Agriculture qui a d'ailleurs proposé une consultation publique. Alors on ne peut donc que se réjouir de toutes ces initiatives qui vont dans le bon sens, Jean-Louis.
Oui, tout à fait. Les consultations publiques, même si certains se disent oui, on y en a beaucoup, et puis on noie le poisson avec ces consultations. Moi, je pense que ces consultations sont importantes car elles ouvrent le débat. Sans laisser ces sujets aux spécialistes qui trop souvent le confisquent, ce débat. C'est vrai pour tous les sujets, même ceux touchant la biodiversité. Les scientifiques ont tendance à confisquer justement ce débat et puis considérer que les associations, le public, ne connaissent pas le sujet, et donc on n'a qu'à les écouter sans broncher. Même chose d'ailleurs sur le nucléaire, si vous n'êtes pas un scientifique, circulez, il n'y a rien à voir. Donc il est important que les citoyens participent et débattent.
Alors, première victoire, Jean-Louis, alors que les arrêtés anti-pesticides se multiplient, ce qui met la pression sur le gouvernement, le juge a validé 2 de ces arrêtés au nom du danger grave pour la population, et nous ne pouvons que saluer cette décision en espérant, bien sûr, qu'elle fera jurisprudence.
Oui, au nom du danger grave pour les populations exposées à ces produits, donc un juge des référés a validé 2 arrêtés anti-pesticides pris par des maires des Hauts-de-Seine. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, donc dans le Val-d'Oise, a rejeté justement le 8 novembre la demande de suspension de 2 arrêtés anti-pesticides pris par les maires de Gennevilliers et de Sceaux au nom du grave danger pour les populations exposées à ces produits. Donc il ne saurait être sérieusement contesté que les produits dont l'utilisation est interdite constituent un danger grave pour les populations exposées, peut-on lire dans l'ordonnance du tribunal. Alors si les décisions qui concernent l'utilisation des produits phytopharmaceutiques relèvent du ministère de l'Agriculture, le maire a pu, en l'espèce, à bon droit, y déroger et prendre cet arrêté selon la décision. Donc après cette décision, alors c'est une décision en référé, c'est-à-dire en urgence. Les 2 arrêtés qui ont été pris par Gennevilliers et Sceaux vont donc ensuite être examinés sur le fond. Il faut bien préciser les choses, c'est une décision en référé, donc en urgence. Reste que cette décision pourrait faire jurisprudence. Toutes les villes qui ont pris ces arrêtés pourraient en bénéficier. Et c'est une bonne façon de mettre le débat sur la place publique.
Et justement, il n'est pas tout seul. Combien de communes ont pris des arrêtés anti-pesticides ?
Alors à ce jour, je crois qu'il y a 104 communes qui ont pris des arrêtés similaires, dont des grandes villes, Paris, Nantes, Lille ont pris ces arrêtés anti-pesticides. Donc, justement, cet arrêté en référé du tribunal administratif du Val d'Oise, de Cergy Pontoise, bah, est important pour, justement, ces arrêtés.
Et puis, Jean-Louis, alors, il y a nos fameux pisseurs, comme ils s'appellent eux-mêmes. Alors, on explique en quoi cela consiste, car cela devient un mouvement presque national, on va dire.
Oui, depuis le lancement de la campagne du glyphosate dans nos urines, il y a de nombreuses personnes qui ont été testées pour déceler la présence ou non de l'herbicide dans leur organisme. Donc, il faut savoir quand même qu'à l'origine de ce mouvement, c'est un mouvement citoyen, c'est un procès qui a été tenu en 2017 à Foix, dans l'Ariège, à l'encontre de 10 membres ariégeois des faucheurs volontaires, donc c'est une association anti-OGM, qui avait en 2016 rendu impropre à la consommation des bidons de pesticides contenant du glyphosate. Alors l'avocat des accusés, spécialiste de questions environnementales, avait démontré dans sa plaidoirie que toutes les précautions n'avaient pas été prises par les entreprises concernant justement le risque pour la santé publique avant la mise sur le marché des produits qui étaient ciblés par les manifestants. Et au moment du verdict, eh bien le juge se déclara donc incapable de se prononcer sur la question avant de la renvoyer l'affaire à la Cour européenne de justice. Ben, c'est ce qui a donné l'idée justement de ces analyses pour mesurer le taux de glyphosate dans les urines.
Et donc justement, ces pisseurs ont retrouvé du glyphosate dans leurs urines et à présent, eh bien, il y en a pas mal qui portent plainte et qui voudraient d'ailleurs un jugement rapide.
Oui, à ce jour, ce qui s'appelle les pisseurs volontaires ont déposé près de 5000 plaintes au tribunal pénal. Donc ça fait suite au lancement d'une campagne glyphosate par cette association pour évaluer le niveau d'exposition des Français à l'herbicide controversé. Donc pour cela, l'association propose aux citoyens qui le souhaitent de tester l'urine grâce à des tests analysés par une entreprise allemande, BioCheck, qui est basée à Leipzig. Alors il faut savoir que ces tests ne sont pas gratuits, mais ce qui quand même limite beaucoup, il faut savoir que ça coûte à peu près 130 euros. Donc tout le monde est loin d'y participer, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui ont testé. Donc c'est un test ELISA, E-L-I-S-A, donc en fait qui c'est un dosage d'immunoabsorption. Donc il s'agit d'une méthode qui se sert de la spécificité des anticorps pour détecter les molécules. Donc le recours qui est utilisé par l'entreprise Biotech donc en Allemagne pour détecter les taux de glyphosate, ça a fait l'objet d'une publication scientifique. Et donc, mais quand même, ces analyses urinaires de pisseurs involontaires, qui ont toutes détecté d'ailleurs la présence de l'herbicide, sont quand même un peu contestées. Et donc, il y a un débat qui est en cours, notamment avec, bien entendu, les agriculteurs qui ont fait aussi des tests, qui n'ont pas utilisé la même méthode. Et eux, leurs résultats sont revenus tous négatifs. Donc il y a un débat qui est en cours, hein, des agriculteurs du Morbihan, par exemple, qui ont testé leur exposition au glyphosate. Leurs tests ont été faits au CHU de Vannes et les analyses sont revenues négatives. Même chose dans le Calvados. Donc la question, certains se sont posés comme question à s'interroger sur la validité des tests. Hein. Et donc, le problème, les résultats ne sont pas opposés, mais le problème, c'est qu'on a deux méthodes différentes de mesure. D'un côté, on a ELISA pour l'épisseur volontaire, et de l'autre côté, les CHU en France utilisent la chromatographie. Donc, il est difficile à l'état actuel de comparer les deux méthodes, hein, puisque aucune analyse croisée entre les deux tests n'a été effectuée sur un même échantillon. On sait en revanche que les limites de détection des deux tests sont différentes, et c'est là où la différence est importante. Les pisseurs involontaires ont volontairement choisi d'effectuer leurs tests dans le laboratoire qui utilise ELISA, car la limite de détection est plus basse que la chromatographie. Donc il faut savoir que avec le test ELISA, la limite de détection est de 0,075 microgrammes par litre, tandis que celle de la chromatographie, qui est utilisée par les agriculteurs de la FNSEA, est de 0,4 microgrammes par litre. Donc on voit quand même la grosse différence entre 0,075 et 0,4. Il y a quand même une marge importante. Et donc ça explique justement ces différences constatées. Donc l'idéal, évidemment, ce serait de croiser sur un même échantillon les deux tests pour avoir justement quelque chose, une indication très, très sûre.
En tout cas, on peut quand même constater, Jean-Louis, que la mobilisation contre les pesticides ne fait que se renforcer, ce qui est une bonne chose, et ce qui montre qu'il est temps de passer à autre chose dans l'agriculture. Alors c'est un combat, je dirais, souhaitable et louable, mais qui ne fait pas, malheureusement, que des adeptes. Et ce, alors, ce qui est difficile à comprendre, c'est que certains agriculteurs ayant justement compris la dangerosité pour tout le monde des produits phytosanitaires se sont convertis au bio et prône une agriculture alors que les autres, en grande majorité, bien évidemment, ont un sentiment de déconsidération qui est spectaculaire. Et d'ailleurs, les FNSEA restent très accros au glyphosate. Alors, est-ce dû, Jean-Louis, à une mauvaise information, à des lobbies, ou alors à un manque d'aide de la part de l'État pour les conversions à une agriculture plus naturelle? Parce qu'il a été prouvé qu'une agriculture sans produits pourrait nourrir aussi bien, tout en préservant la terre, cette terre nourricière, on va dire.
Oui, tout à fait. Bah, selon l'Organisation des Nations Unies, la production agricole devrait augmenter de 50% d'ici à 2050 pour nourrir une population mondiale de plus de 9 milliards d'humains. C'est de quoi fragiliser davantage l'environnement et le climat, et donc la sécurité alimentaire. Donc l'approche industrielle actuelle, qui mène à la dégradation du sol, à l'épuisement des ressources, ne pourra d'ailleurs pas nourrir un monde avec 9 milliards de personnes en 2050. Alors aussi, l'idée répandue, c'est que l'agriculture biologique, faute de rendement suffisant, ne pourrait pas subvenir aux besoins d'une planète à la démographie galopante. C'est une idée très répandue, mais différentes études montrent bien le contraire. Par exemple, dans 114 projets dans 24 pays africains, savoir que l'introduction de principes d'agriculture biologique a fait doubler les récoltes. Et puis la famine dans le monde n'est pas qu'une question de production, mais c'est aussi de mauvaise distribution, de gaspillage alimentaire. Il faut savoir que selon des estimations, 30 à 50% de l'ensemble de la nourriture produite est gaspillée. Et puis de plus, une grande partie de la production agricole est inefficacement utilisée pour le carburant et pour les aliments pour le bétail. Donc savoir que limiter la consommation de protéines animales, limiter le gaspillage alimentaire... sont quand même les clés d'ouverture pour justement passer à un autre mode de production.
Tout à fait.
Nourrir la planète avec ou sans le bio, c'est vraiment une fausse question, parce que nourrir la planète, ce n'est pas qu'une question de rendement et de technique agricole, c'est une question d'accès des populations à la nourriture. Mieux répartir les excédents agricoles, encourager les cultures vivrières, stabiliser les prix, harmoniser les échanges commerciaux. Tout ça, la politique et l'économie ont un grand rôle à jouer. C'est pas parce que la nourriture sera disponible que les populations affamées pourront l'acheter. Donc il y a aussi, ce n'est pas qu'une question d'agriculture.
En tout cas, voilà, je reste convaincu qu'il est important que les pouvoirs publics changent leur comportement en sortant du court terme et mettre en place une vraie politique de prévention avec des principes d'une alimentation saine basée sur une agriculture biologique respectueuse de la biosphère. Jean-Louis, nous allons clore ce chapitre des pesticides avec ce dernier volet, et justement, puisque je parlais d'alimentation saine, et bien à partir de la semaine prochaine, si vous le voulez bien, nous aborderons ce sujet, car bien sûr, bon nombre de problèmes de santé sont dus à une mauvaise alimentation dans laquelle se cachent souvent des excès, et pas seulement des pesticides, mais aussi des excès de sucre, de sel, de colorants ou de perturbateurs endocriniens. Continuons d'informer, Jean-Louis, et je vous dis à la semaine prochaine.
Tout à fait, à la semaine prochaine, bonne semaine.
Bonne semaine à vous. Merci, bonne semaine à vous.
L'homme connaît toutes les recettes pour abîmer la planète. Il possède tout ce qu'il faut pour la réduire en morceaux. Il est devenu si puissant qu'il ne lui faut pas longtemps pour défaire ce que la terre a mis tant de temps à faire. Arrêtons tous les blablas, la planète est raplapla. Faudrait quand même réfléchir avant de faire encore pire. C'est pas gravé dans nos têtes qu'on est tous des marionnettes. Au fond de chacun d'entre nous sommeille un petit mégot.
fabrique pousse toujours les hommes à régler par la technique tout ce qui pose problème en somme au détriment de l'éthique. La forêt et l'énergie, l'eau, le soleil et la vie, les transports et la santé, tous fourrés dans le même panier. Arrêtons tous les blablas, la planète est raplapla. Faudrait quand même réfléchir avant de faire encore pire. C'est pas gravé dans nos têtes qu'on est tous des marionnettes. Au fond de chacun d'entre nous sommeille un petit Migou.
Michael Furnon sur Radio Plus, c'est le leader du groupe Mickey 3D qui, comme on le sait, parle beaucoup écologie et environnement dans ses chansons. Et tant mieux si le message passe. Allez, jardiner sans pesticides, c'est tout de suite avec Bertrand Trinel.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Journée de Sainte-Aude, ordinairement, n'est pas chaude. Eh bien, c'est vrai que nous frissonnons un peu, mais en même temps, nous sommes quand même dans la seconde moitié de novembre, et c'est donc un temps de saison. Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine, et bonjour aux auditeurs.
Alors, novembre froid, temps gris, pluvieux, et depuis quelque temps, on déguste. Et pourtant, c'est un mois durant lequel le jardinier ne peut pas se mettre au repos. On sait bien que c'est le mois idéal pour planter, et à ce propos, Bertrand, vous nous rappelez que c'est le bon moment pour les plantations de rosiers.
Oui, alors donc effectivement, c'est le bon moment pour les plantations en général, hein, donc également pour les rosiers. Donc la rose, c'est la fleur préférée des jardiniers. Hein, et il y en a une très grande diversité, hein, de formes, de couleurs, de parfums, de pores et tout ça. Chacun va trouver la rose de ses rêves, pas de problème. Par contre, certains nous disent parfois que la rose a une floraison bien courte. Donc, comme elle a des épines, comme le port n'est pas toujours beau, bon, c'est pas une fleur qui est très recommandée pour eux. Mais il faut pas oublier qu'il y a des roses qui sont remontantes, qui vont fleurir quasiment jusqu'au juin gelé. Et puis, il faut pas oublier aussi que certains rosiers vont nous offrir un superbe spectacle l'hiver avec leur fructification. Donc, on a toute cette floraison estivale, plus une fructification l'hiver. Alors, les fruits du rosier, ça s'appelle les cynorhodons, hein. Et selon la variété, ceux-ci seront jaunes, noirs, rouges, oranges, etc. Il y a également des formes différentes. Certains cyrénodons sont ovoïdes, d'autres ont la forme d'amphore, etc. Certains sont poilus. Donc il y a vraiment une super décoration hivernale avec les cynérodons des rosiers. On peut même en mettre dans les couronnes de bienvenue, tout ça, des couronnes de Noël, et faire des tas de choses avec, les mettre à l'intérieur dans des potées fleuries. Hein. Donc les rosiers, il faut les planter bien sûr en plein soleil. Alors, en ce moment, c'est surtout en période hors gel, hein, dans une bonne terre de jardin. Et vous pourrez, quand vous l'aurez planté, ou même si vous avez des rosiers, recouvrir la base avec de la terre pour les protéger du gel. Hein, et puis vous enlevez ça au printemps. Vous enlevez ça au printemps, puis c'est bon.
Je croyais que vous nous alliez nous dire, Bertrand, qu'on pouvait aussi les mettre dans les couronnes mortuaires. Comme on parlait d'enterrement. Bon. Et puis, on parle aussi d'alimentation. Il paraît qu'on peut en faire des confitures. C'est vrai, des confitures de rose avec ces cyrénodons.
Oui, il y en a qui font des confitures avec les pétales de rose, mais en plus d'être décoratifs, les cyrénodons peuvent servir à faire des délicieuses confitures. Donc, c'est un fruit qui est très riche en vitamine C. Hein. On croit qu'on le fait qu'avec le fruit de l'églantier, hein, le cyrénodon de l'églantier, mais en fin de compte, tous les rosiers qui portent ces fruits, on peut les utiliser pour faire de la confiture. Donc voilà, vous pouvez. Alors je vais pas vous donner de recettes, hein, je crois que sur internet il y a pas mal de recettes.
Donc on les cueille, voilà. On les fait cuire quoi.
On les cueille, on les fait cuire, on enlève d'abord tout le poil à gratter qui est tout
milieu. D'accord.
On le met dans comme à l'école dans le pantalon du voisin, c'est bien.
D'accord. Alors je crois, Bertrand, que novembre est aussi le mois du bouturage par excellence.
Oui, bah chacun connaît le dicton à la Sainte-Catherine, tout bois par racine. Hein. Donc on peut donc en cette saison faire des boutures ligneuses, de nombreux arbustes. Hein. La bouture ligneuse, c'est quand la plante fait une pousse herbacée, elle devient dure, elle fait du bois, donc c'est une bouture ligneuse, elle est devenue en bois. Donc on prélève des rameaux de 20 à 25 cm, hein, et on les coupe juste sous un œil. Donc on enlève les... Bah, il n'y a plus de feuilles en ce moment. On enlève les feuilles, mais c'est pas la peine. On coupe juste sous un œil. C'est ce qu'on appelle une bouture nodale. Donc, c'est à cet emplacement que les plantes peuvent déclencher une production d'hormones favorable au développement des racines. Donc c'est pour ça que quand c'est coupé juste sous un œil, c'est toujours mieux. Vous plantez ensuite vos boutures soit en pleine terre, soit dans des pots. Alors, si vous plantez en pot, vous remplissez le pot d'un mélange de sable, de perlite et de terreau. La perlite, ça va alléger le substrat, ça va retenir un peu l'eau. Et puis, vous enfoncez vos boutures sur le bord du pot, plutôt qu'au milieu, parce qu'elles auront meilleure reprise sur le bord du pot. Ensuite, vous allez enterrer vos pots à un endroit, bien sûr, qui sera épargné par le soleil estival, parce que s'il fait trop chaud, ça va tout griller. Et surtout, vous n'oubliez pas l'arrosage, hein, le substrat doit toujours être humide. Alors, on peut également, pour favoriser la venue de racines, les arroser avec de l'eau de sol. Hein, c'est vraiment une hormone de bouturage naturelle. Alors pour ça, on va couper des petits morceaux de branches de sol, hein, de 5 à 10 cm. Vous les mettez dans un récipient en plastique. Et puis, vous en mettez beaucoup. Hein. Tout le fond du récipient doit être bien sur 10-15 cm rempli. Vous remplissez d'eau au-dessus. Et puis, vous laissez une quinzaine de jours comme ça. Et ça va délivrer une hormone de bouturage. Et ensuite, avec cette eau, vous arrosez vos boutures. Et ça favorise l'enracinement.
Voilà, ça c'était votre astuce, Bertrand, mais encore faut-il avoir des saules chez soi.
Et en plus avoir des saules pleureurs, c'est beaucoup mieux.
Oui, d'accord.
Mais il y en a pas un peu partout quand même.
Alors, par contre, Bertrand, peut-on encore semer en pleine terre l'ail violet, par exemple? Et vous allez vous nous dire pourquoi violet?
Alors, déjà, c'est pas semé, c'est planté, on peut encore
planter,
le planter.
Oui.
Ouais. Il y a plusieurs sortes d'ail, hein, le blanc, le violet, le rose. Alors on va appeler l'ail violet à cause de sa couleur un peu violette de sa peau. Donc l'ail blanc et l'ail violet, ce sont ce qu'on appelle les ails précoces. Hein. Ils peuvent encore se planter maintenant, mais c'est vraiment le plus que temps. Hein. Normalement, on les plante d'octobre à mi-novembre. Hein. Et après la récolte, en juin-juillet, ils vont se conserver 6 mois. L'ail rose, lui, va se planter plutôt au printemps, début d'année, fin janvier, on va commencer à le planter. Et quand on va récolter, sa conservation sera quand même de 1 an. C'est l'ail d'Arleux, l'ail de... Mmh. Voilà. Et puis, il y a un autre ail, c'est l'ail éléphant. Donc, un ail énorme, hein, qui fait des têtes d'environ 10 à 12 cm de diamètre. Donc, on plante à la même période que l'ail violet. On plante vers mi-octobre. Et là, ça fait vraiment des têtes énormes.
Mmh. Et puis, alors, si on consulte le calendrier lunaire, aujourd'hui, c'est un jour feuille, idéal pour planter les choux.
Effectivement, les choux sont en effet considérés comme un légume feuille. Hein. Donc, dans le calendrier lunaire, le 18 novembre 2019, c'est effectivement un jour feuille, donc propice au repiquage des choux. Donc, évitez tout de même un endroit trop humide. Hein. Faut pas un excès d'humidité, le chou, ça va pas trop apprécier. Et les choux vont apprécier une terre qui est un peu calcaire. Donc, n'allez pas les mettre dans une terre acide. Et au repiquage, il faudra les enfoncer très profondément, jusqu'aux premières feuilles. Alors après, on peut mettre un petit paillage de protection, mais normalement, ils craignent pas le froid, hein, ils craignent pas le gel.
Alors justement, puisqu'on parle protection, les températures baissent vraiment beaucoup, et il faut bien sûr protéger la mâche, par exemple, et puis les plantes aromatiques. Alors, et le voile d'hivernage est un bon moyen, et on le trouve un peu partout, même, je dirais, dans les discounts. Alors, faut-il faire attention à la qualité, Bertrand, ou alors le voile d'hivernage est un voile d'hivernage, point?
Non, alors, on trouve dans les magasins des voiles de forçage, hein, qu'on va appeler P17 ou P19. Un P17, c'est 17 grammes au mètre carré. Hein. Ceux-ci vont servir surtout à protéger les semis au printemps. Hein. Vous mettez sur vos semis, et le fait de couvrir vos semis comme ça sur toute la surface, vous allez gagner environ 2 semaines sur la récolte. Et puis, il y a le voile d'hivernage beaucoup plus épais, beaucoup plus cher aussi. Hein. Donc, plus protecteur contre le froid, hein, le P30, le P60, hein, donc 30 grammes au mètre carré. Hein. Donc ils vont servir à protéger les plantes dès le début de l'hiver. Il suffit de les d'entourer la plante, notamment si c'est une plante en pot ou dans le jardin, on l'entoure avec ce voile d'hivernage, on le maintient avec une corde, et puis voilà. Et on laisse un peu... De toute façon, non, ça laisse passer l'air et ça laisse passer l'eau. Mmh. J'allais dire, on laisse un peu une ouverture en haut. Mais vous enlevez ça au printemps et c'est bien. Voilà. Mais par contre, si vous n'avez que du voile de forçage, c'est-à-dire le P17 ou le P19, bah, au lieu de faire un tour, bah, vous en faites 2 ou 3, et puis ce sera une protection un peu comme un voile d'hivernage.
D'accord. En tout cas, Bertrand, merci pour ces conseils. On met le gros pull et on y va. Et on n'oublie pas que les oiseaux, eux aussi, commencent à avoir froid et qu'il nous faut les nourrir. Et tous les jours, et sans oublier l'eau. Voilà.
Oui. Bah, on ne va jamais répéter
assez.
Les oiseaux ne trouvent pas plus suffisamment de nourriture.
Bien sûr.
Hein, et avec les haies qui ont disparu, avec tous les pesticides, avec tout ça, et puis l'insecte non plus. Donc, il nous faut les nourrir en période hivernale. Hein. Mmh. Si on veut avoir des oiseaux et si on veut avoir des auxiliaires au printemps, il faut absolument les nourrir. Et Avec une nourriture insuffisante, il y a plein d'oiseaux qui meurent de froid cours des nuits glaciales, il faut savoir. Donc il faut apporter des graines, de la graisse à volonté. Et puis effectivement, il ne faut pas oublier de l'eau, hein. Surtout quand il gèle, mais il faut amener de l'eau parce que sinon on ne va trouver d'eau nulle part. Et on remplace le récipient, dès qu'il est gelé, on remplace l'eau dans le récipient.
Voilà, merci Bertrand, je vous dis à lundi. Lundi, ce sera le jour de la Sainte-Catherine, tout un programme pour le jardinier, n'est-ce
Super
pas
journée.
Bonne semaine Bertrand.
Bonne semaine Martine, bonne semaine à tout le monde.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos, nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue.
Aujourd'hui que débute la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors en 2018, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 19% contre 9% pour le total de la population active. En tout, ce sont plus de 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Alors face à cette disparité, l'ADAPT, c'est-à-dire l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, tente de faire bouger les choses et organise depuis 1997 la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Les difficultés d'intégration de ces personnes dans le monde du travail sont multiples, mais elles n'en sont pas moins dans la vie sociale de tous les jours et dans le sociétal, pour employer un terme à la mode, c'est-à-dire dans l'accès à la responsabilité d'une entité, qu'elle soit économique ou politique. Et justement, de la politique, eh bien, parlons-en aujourd'hui avec Hervé Bedu, président de l'association Handi Défense et correspondant régional des Hauts-de-France de l'APHPP, c'est-à-dire de l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Hervé Bedu, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Hervé, on rappelle que l'association Handi Défense, dont vous êtes président, défend les droits des personnes handicapées en essayant de faire bouger les choses et de changer le regard de l'autre. Et vous êtes intervenu déjà plusieurs fois à ce micro pour la présenter. Dans ce même contexte, vous êtes allé rejoindre l'APHPP, c'est-à-dire l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Alors quel est l'objectif de cette association ?
Cette association, qui œuvre pour placer le handicap au cœur du débat politique et économique, facilitateur de rencontres, de projets, de débats, l'APHPP se veut force de proposition et de consultation sur le plan national et européen, au travers de la mise en place de synergies propices à des actions constructives et innovantes en faveur des personnes handicapées et de la préservation de leurs droits, particulièrement attachées aux actions de terrain, l'association rayonne sur l'ensemble du territoire au travers d'un réseau de correspondants locaux et régionaux. Et donc, quand ils ont su que j'étais président d'association Handi Défense et que le combat que je menais qui correspondait au même objectif, ils m'ont fait cette proposition de me nommer en tant que correspondant régional des Hauts-de-France pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, mais en même temps de faire passer le message auprès des politiques et au niveau économique pour faciliter l'insertion tant qu'au niveau professionnel et l'insertion aussi en tant que futur élu. Voilà.
Alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas assez de personnes handicapées au sein des élus? Et quelles en sont les raisons, Hervé?
Ben, malheureusement, les personnes handicapées sont encore considérées comme des citoyens de seconde zone. La problématique, c'est qu'on pense que nous, personnes en situation de handicap, nous ne pouvons pas être à la hauteur de nos statuts d'hommes politiques. Certains d'hommes politiques le pensent. Heureusement, pas tous. Et certains partis politiques aussi, grosso modo. La triste réalité préfère nous mettre en vitrine que de siéger comme futur élu au niveau local ou au niveau national, ou en futur député à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Cela ne bouge pas assez dans le bon sens, malheureusement. Et donc, j'étais missionné par rapport à la PHPP à une audition devant le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Bruno Quetel, suite à la loi relative à l'engagement au niveau de la vie locale et à la proximité de l'action publique. Cette loi est basée aussi sur les élus au niveau en situation de handicap pour leur favoriser aussi l'adaptation de leur poste et les inclure aussi en tant que futurs élus.
Alors justement, Hervé Bedu, quelles sont vos revendications?
Quelles sont mes revendications? Nous demandons la parité dans la liste, comme on l'a fait pour les femmes, d'inclure les personnes en situation d'handicap, mais éligibles à toutes les fonctions politiques que ce soit. On demande un quota aussi de 6% en tant qu'élu en situation d'handicap, comme dans les entreprises de la fonction publique, secteur privé. Parce que dans la fonction publique, il faut savoir que on est un petit peu bloqué là-dessus, parce qu'au niveau représentatif, on ne peut pas se présenter. Et donc, on demande aussi de vérifier. Et on a demandé aussi une campagne de sensibilisation envers les élus pour l'intégration des personnes en situation de handicap comme futurs élus. On a demandé aussi qu'il y ait une communication sous forme d'une campagne nationale au niveau des réseaux sociaux, des journaux, de la presse, de la télévision, pour encourager les personnes en situation de handicap à s'engager en politique et aussi d'appeler les élus à les intégrer lors des prochaines élections, comme les élections municipales qui aura lieu en 2020. Mais attention, on a mis aussi un point d'honneur, c'est que c'est pas parce qu'on est une personne en situation de handicap qu'il faut lui donner obligatoirement des responsabilités liées seulement au handicap. Ça, c'est important de dire. Et une création aussi d'une formation adaptée pour la prise du mandat en tant qu'élu en situation de handicap. Et après, on pourrait encore déterminer plein de propositions qu'on pourrait énumérer, comme la création d'un référent ou d'un dispositif qui permettrait à ces personnes de bien mener leur mandat, la création d'un fonds financier, la GFI, je parle de la GFI, l'FI, PHFP, qui permettrait l'adaptation des futurs mandats d'élus. Il convient de veiller à ce qu'une attention particulière soit portée aux futurs élus en situation de handicap pour assurer que leur mandat soit exécuté sans contrainte. Donc, interprète, accompagnement physique, matériel, logiciel, etc. Voilà.
D'accord, et ça fait partie donc des solutions que vous joignez à vos revendications pour dire d'aider les personnes handicapées, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas toujours facile de concilier une élection à une place prépondérante avec un handicap, c'est-à-dire quelquefois une mobilité réduite ou une déficience motrice ou auditive ou visuelle. Voilà, alors là, c'était quelques solutions d'accompagnement, on va dire. Hervé Bedu, pensez-vous pouvoir être entendu, c'est-à-dire ces propositions pourraient-elles faire l'objet de lois discutées à l'Assemblée nationale?
Oui, tout à fait, parce que là, j'étais auditionné par rapport à ce rapporteur, M. Bruno Quetel, de ce gouvernement actuel, qui sont en train d'en discuter à l'Assemblée nationale suite à ce projet de loi, qui va être de toute façon voté. Et qui inclut aussi, déjà au départ, c'était pour renforcer les pouvoirs des maires, leur assurer aussi beaucoup plus de responsabilités vis-à-vis de leur commune. Mais en même temps, c'était aussi inclus les personnes en situation de handicap en tant que futurs élus. Et aussi, en même temps, qu'est-ce qui est important aussi, c'était aussi Au niveau de... faut savoir que si on devient élu en tant que personne en situation de handicap, il va avoir aussi... à revoir aussi par rapport au cumul possible des indemnités de fonction vis-à-vis de l'allocation adulte handicapé. Parce que malheureusement, si on touche par rapport à ce mandat locaux en tant que futur élu, ça pourrait indirectement fonctionner dessus, sur cet AH. Et ça, il faut y remédier. Donc, voilà. Donc, de toute façon, c'est le but de l'APHPP, de l'Association des défenses, de se faire entendre, de faire aboutir ces propositions au niveau des élus en situation de handicap, en politique. L'inclusion des élus en situation de handicap dans les instances politiques nationales et locales relève de la représentativité réelle de la diversité de la société.
Tout à fait. Alors. En tout cas, Hervé Bedu, merci. Je rappelle que vous êtes le président de Handi Défense et qu'à ce titre, vous êtes là pour aider les personnes handicapées dans la reconnaissance de leurs droits, mais aussi pour les aider tout simplement, on va dire, et être à leur écoute. Alors, on peut peut-être redonner des coordonnées, Hervé ?
Oui, alors je donnerai déjà le site www.handidefense.com. Après, il peut me joindre au 03 21 14 72 28 ou 06 24 77 12 45. Si vraiment ils ont besoin d'un, suite à un problème administratif ou juridique, on est là pour ça, mais il n'y a pas que ça, on fait de l'accessibilité en général, on peut les accompagner dans tout domaine, même dans le logement, que c'est le nerf de la guerre, le logement PMR, malheureusement, il n'y en a pas suffisamment. En même temps, je tenais aussi à dire, en tant que président de l'association Handi Défense, on organise un gala pour l'enfance le 14 décembre, le samedi 14 décembre, à partir de 16h30 jusqu'à 1h30 du matin, à la salle Jean Nouin, route de Béthune à Lens. Et il y a pas mal d'artistes. Il y aura même un sosie de John Hallyday, mais un sosie officiel qui viendra. Il y aura un sosie vocal, danseur, performeur, Michael Jackson, qui s'appelle Matty Jackson. Il y aura aussi un tribute de Zazie, chanté par Malène Mathias. Et il y aura aussi un monsieur où il y a Michael Jones qui le suit, qui s'appelle Enrico Palmieri, et d'autres artistes. De toute façon, il y en a pour tous les styles. Il y a même une association de country qui se joint aussi. Donc ceux qui adorent le country, ils ne vont pas être déçus aussi. Voilà. Mais le but, c'est pour récolter de l'argent pour les enfants en situation de handicap.
Okay.
Là, je tiens à le dire fermement. Ce n'est pas pour moi. Tout cet argent sera pour eux.
On a bien compris. Et on retrouve tout ça sur votre site, Hervé.
Oui, tout à fait.
Voilà. Il faut savoir que Radio Plus sera en direct du grand salon du handicap, du grand âge et du maintien à domicile des Hauts-de-France les 27 et 28 novembre à Lille Europe, au Grand Palais. Voilà.
Et je sais, je serai présent, je serai là-bas parce que j'ai un ami, mon vice-président, qui va faire des conférences. Il s'appelle Nicolas Karasevich, qui a son entreprise Tiresias, qui est non-voyant. Donc il m'a invité aussi à faire partie de cette conférence en tant que président de l'association Handi Défense et lui-même aussi correspondant de l'APHPP.
Donc, merci.
Je tiens à préciser que vraiment au niveau APHPP et par rapport à Handi Défense...
Vous allez être coupé, Hervé. Merci. Voilà. On en reparlera. Merci, Hervé.
Merci.